Donc voilà, pour le petit audio sur le coup de call sur Snapchat et sur comment ça s'appelle et sur Pinterest, pourquoi j'ai fait ça? Je pense que c'était important de l'expliquer parce que ça vous donne un peu l'idée. Déjà, c'est des tout petits montants. Donc en fait, une fois de temps en temps, ça passe, une fois ça échoue, mais quand vous mettez 500 euros et que vous avez un taux de réussite, ou quand ça réussit, ça fait x10, et que vous avez un taux de réussite de 30-40%, vous êtes large gagnant à la fin. Mais attention, faut bien vous dire, il faut pas vous emballer. C'est-à-dire que cette stratégie, je sais qu'elle marche, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que quand je dis que je mets des tickets de 500 euros, en fait, il y a une raison derrière. Pourquoi? C'est parce que je mets à chaque fois des tickets de 500 euros, parce que je pourrais le faire aussi bien avec 50 000, 5 millions, 10 millions, 15 millions. Enfin, au bout d'un moment, il y aurait un problème parce que j'aurais pas la contrepartie sur le marché, mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, pourquoi je le fais avec 500 euros? Parce que je veux pas surexposer mon portefeuille à ce genre de pari, et parce que je sais qu'il y a des moments où ça peut rater 10-15 fois d'affilée. Donc 10-15 fois 500 euros, c'est pas un problème, ça représente rien sur mon portefeuille et c'est pas dérangeant. Par contre, 10 ou 15 fois d'affilée, ça rate sur 50 000 euros, mon portefeuille, il fait sérieusement la tronche. D'accord? Il n'est pas mort, mais il fait sérieusement la tronche. Du coup, il faut quand même, quand vous preniez des stratégies qui sont très risquées, où vous savez que vous pouvez avoir une proportionnalité de chance qui est importante, parce que par exemple, cette stratégie de jouer les résultats, je la fais assez souvent. En gros, je vous dis, il y a, ouais, c'est ça, il y a 30, 35% de fois où je gagne, et le reste, bon, allez, il y en a 20%, on ne fait pas grand-chose, voilà, et 50%, on perd, voilà, à peu près. Voilà, quelques pouillèmes de près, c'est ça. Le problème, c'est que vous savez pas très bien quand vous gagnez, quand vous perdez. Une fois, j'étais dans cette stratégie, j'ai fait 22 gains d'affilée et c'était tous des gains minimum à x5. D'accord? Donc, c'était un moment où le marché était on fire. On publiait, toutes les entreprises publiaient au-dessus des guidance. En plus, j'avais bien sélectionné mes entreprises et tout. C'était magnifique. Voilà. C'est de la chance, il faut pas l'oublier. La chance, elle se provoque. Mais elle se maîtrise jamais. Et ça, il faut pas l'oublier. Provoquer votre chance, c'est ce que vous allez essayer de faire ici. Est-ce que vous la maîtriserez? Jamais de la vie. Vous allez toujours la provoquer. Et la maîtriser, ce serait être capable de l'amener tout le temps et d'avoir une redondance à des moments précis de votre vie et tous les X mois d'en avoir, ce genre de choses. Je vous promettrai jamais qu'on aura de la chance d'avoir une OPA tous les 4, 5, 6 mois. Jamais. C'est pas possible. Mais par contre, je vous promets qu'on aura souvent des OPA. Après, on aura des cycles, il y a des moments où on en aura beaucoup, il y a des moments où on n'en aura pas. C'est le jeu, c'est comme ça que ça marche. La bourse, moi je trouve que c'est bien. Donc voilà, donc c'était ça. Et après, la raison pourquoi j'ai fait ce call-là, parce que quand Meta est tombé, l'idée du marché c'était quoi? C'était que la publicité ça marchait pas. Et que du coup, tout le monde allait souffrir. Or, en fait, il se trouve que c'est pas un problème de publicité purement, parce que vous vous appelez Google, vous avez beaucoup d'infos et vous êtes capable de vendre votre publicité. D'accord? Vous vous appelez Publicis, vous êtes quelqu'un qui fait de la publicité, vous êtes capable de vendre votre publicité parce que Sapient, qui est la filiale qui est dans la publicité online, elle a bien performé. Et toutes ces infos-là, c'est des infos qu'on avait ce matin, d'accord? Qu'on connaissait. Donc il y avait quand même peu de chances que ça soit un effet sectoriel, c'est-à-dire que tout le monde se soit merdé sur la pub comme Facebook l'a fait. En plus, est-ce que vous pouvez vraiment dire que Facebook s'est merdé alors qu'ils ont raté de 1 milliard le consensus de chiffre d'affaires sur 30 milliards de chiffre d'affaires? C'est quand même pas important. Et je pense que la problématique, c'est que Facebook est plus regardé que les autres, et aussi que effectivement, quand vous vous appelez Facebook, d'accord? Et que vous êtes habitué à connaître beaucoup de choses sur la vie privée des gens, vous faites de la publicité ultra ciblée, et donc le fait que Apple ne vous donne plus accès à toutes les mêmes données, ça peut grandement toucher votre ARPU. C'est-à-dire que quand vous avez un coût de la publicité affiché qui est de 50 centimes, et quand d'autres ont un coût de la publicité qui est à 10 centimes, bah en fait, les annonceurs chez vous sur Facebook, ils vont faire très attention à leur ROI. Et donc, si vous ne travaillez pas le ROI, bah ça peut créer des problèmes. Et ce qui s'est passé au Q4 et au Q3, c'est que le ROI sur Facebook, il a beaucoup remonté. Parce que pour réattirer les annonceurs et ce genre de choses, la politique qu'a choisi Facebook par rapport à Apple, c'est de se dire on va baisser un peu nos prix
pour que les gens retrouvent le ROI de la publicité qu'ils avaient avant et qu'on n'ait pas une descente du nombre de publicités. Et en fait, il va falloir ajuster un peu et remonter progressivement le prix pour Facebook, tout en disant on a compensé les problématiques que Apple nous donne plus de données. Mais ça se fait doucement dans le temps, en ayant plus de données, en mettant en place des systèmes d'A/B test, ce genre de choses. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire sur Facebook, c'est pour ça qu'on l'a acheté, parce que je pense qu'ils vont réussir dans ce travail-là et que c'est les seuls au monde à avoir 1,5 milliard de personnes qui leur filent toutes leurs données matin, midi, soir. Bon, en dehors, vous avez peut-être Google, mais c'est tout. Vous avez eux et Google. Les autres, c'est un peu moins vrai. Apple, il y a moins de clients, ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est déjà ça, l'histoire. Donc moi, je me disais qu'il y avait de fortes chances pour que il y ait quand même une des deux, ou Pinterest ou Snapchat, qui publie correctement. Après, qu'est-ce qui s'est passé aussi qui m'a convaincu de le faire? C'était que c'est une vision que j'avais le matin, mais il s'est passé autre chose dans la journée. C'est quoi? C'est que Snapchat et Pinterest sont tombés. Et en fait, quand on regardait les options Snapchat et Pinterest, d'accord? Donc vous allez sur des outils de suivi des flows des options. Quand vous regardez un flow d'options, ce qui se passe, c'est que vous avez un prix. C'est le prix auquel l'action elle est prévisible. D'accord? Et généralement, votre flow d'options correspond au prix de l'action en bourse. D'accord? Parce que si vous avez un différentiel, c'est-à-dire que si votre flow d'options il vous affiche un prix plus élevé que la bourse ou moins élevé, ça veut dire que généralement, le marché prévoit que soit la société elle va monter, soit la société elle va descendre. Généralement, vous n'avez pas des distances de prix qui sont considérables. Parce que si vous avez des distances de prix considérables, vous avez des arbitragistes qui rentrent en place. Ce qui se passe par contre en ce moment, c'est quoi? C'est qu'en fait, les arbitragistes, c'est des gens qui ont tendance à jouer à très très court terme. C'est-à-dire ils jouent sur des positions de 24-48 heures. Comme le marché des options aux États-Unis est en feu et qui va dans tous les sens, vous avez beaucoup d'arbitragistes qui sont sortis de ce marché-là. Parce qu'en fait, ils n'ont plus la capacité de travailler le marché comme avant. Donc, ils font moins d'arbitrage. Donc, ils jouent moins ce rôle-là. Donc, on arrive à avoir des dichotomies qui sont dingues. Et donc, à un moment, sur le marché, dans l'après-midi, quand Snapchat valait de mémoire 25 dollars, les options Snapchat, certaines, avec des prix, ça n'a pas duré longtemps, mais sur certaines places de marché, sur certains trucs, on est tombé sur des options qui valorisaient Snapchat 18 dollars. Donc ça veut dire que vous l'achetiez 25 à Wall Street et on vous valorisait sur le marché des options et sur certains marchés un peu complexes des options entre particuliers, ce genre de choses, on valorisait 18. Et si vous étiez sur des plateformes d'options classiques, on est tombé entre guillemets vers 21, 22. D'accord? Donc vous baissiez déjà de quasiment 10%, même plus. Hein, pour pas dire de bêtises, je vais aller voir, on baissait de Snapchat stock. On baissait de quoi? Ah non, pardon, on baissait de beaucoup plus que ça. On baissait de 23%, d'accord? Donc on baissait déjà de 23%, on était à 24,50. Donc il y avait déjà une forte baisse de l'action. Ok. Et on était sur une valorisation qui était aux alentours de 21-22. Donc ça veut dire qu'on pricait encore en post-market une baisse de plus de 15%. Donc vous avez perdu 20%, 23% dans la journée et on vous dit que vous allez encore en perdre 15% à la suite. Donc c'était plutôt ça qui était pricé par le marché. Et moi, ça me paraissait totalement ahurissant. Parce que vous êtes vraiment dans l'abus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a vu dans beaucoup de sociétés. Vous l'avez vu sur Roblox avec des baisses très fortes. Vous l'avez vu sur beaucoup de sociétés qui sont pas liées à Facebook totalement. Et on le voyait aussi sur Pinterest. Et du coup, moi, je me suis dit, il y a de fortes chances que même si ça publie mal, si ça publie pas très mal, ça puisse profiter de la bourse. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des calls. D'accord? Et du coup, bah, ça a marché sur les deux fois. Voilà, c'est tout. C'est l'histoire de ce soir. Donc, quand il y a de la volatilité comme ça, c'est pour ça qu'on fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en place dans le portefeuille? Bah, déjà, parce que la plupart d'entre vous ne sont pas habitués aux options, que c'est un truc très risqué, et que moi, je le fais avec du capital que j'ai gagné depuis longtemps. enfin, je suis en multiplicateur très important sur mon portefeuille. Et donc, quand je me plante sur des petites valeurs comme ça, c'est pas un problème. Là, dans le portefeuille, on a mis 200 000 euros. Mon but, c'est de vous montrer ce que fait un bon investisseur. Donc, c'est pas de compenser avec ces 200 000 euros et de dire, on va jouer à la roulette russe, on va se faire plaisir. Là, on se serait fait plaisir. Je vous dirais quelque chose, c'est qu'on aurait mis sûrement 500 $ du portefeuille maximum sur chaque call. Et on aurait gagné, en gros, si je compare par rapport à moi, on aurait gagné 23 000, ouais, non, un peu plus, même 28 000 $. Donc déjà, on aurait un portefeuille qui, à ce soir, vaudrait à peu près 23 000, enfin 230 000 $. Donc on aurait déjà fait 13% sur l'année, sachant que tout est down sur les marchés, c'est quand même joli. Bon, après, on est rentré à des moments où le marché était bas, ce genre de choses. Bon, ça, voilà. Hein. Il faut voir les choses dans le temps. Mais pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire? Malgré le fait qu'il y avait des fortes chances de réussite. Parce que je trouve que c'est un mauvais exemple à vous donner. C'est-à-dire, on lance un portefeuille, on vous dit qu'on construit un truc de long terme, on vous dit que là, les marchés sont un peu trop volatiles, et première chose qu'on fait, c'est mettre des options et vous rentrez dans un portefeuille qui est plus complexe. Je pense qu'il faut vous guider. Vous êtes quand même nombreux à être des nouveaux investisseurs ou des investisseurs qui ne sont pas formés aux options. Donc, je préfère qu'on gagne beaucoup d'argent avec les actions, qu'après on mette en place des stratégies options que je vous les explique, des stratégies variantes que je vous explique, que je passe du temps, que comme vous ayez gagné de l'argent, vous ayez envie de passer du temps dessus, de bien vous former, de bien comprendre, parce que attention, ça sera des choses qui demanderont énormément de temps. Et je suis conscient que déjà écouter tout ce que je donne comme contenu, ça prend du temps. Mais si vous voulez comprendre la bourse, si vous voulez comprendre les sociétés, il faut y passer du temps. Et au bout d'un moment, la mécanique intellectuelle se fera dans votre cerveau. Vous aurez une compréhension des sociétés, une compréhension des métriques des sociétés. Vous pourrez vous dire, le marché là, il a raison, le marché là, il a tort. Et voilà, parce que les idées de le marché, il a toujours raison, ça c'est ce que vous vendent les mecs qui font du graphique, et ils vous disent, ah oui, mais si une valeur est pas bonne, c'est parce que le marché, il voit une vision que toi, t'as pas. Fondamentalement, c'est assez faux. Sinon, il n'y aurait jamais des sociétés qui se multiplieraient par 10 en un an et demi, parce que le marché les aurait vues avant. Donc si vous avez des changements aussi violents et tout, à part sur des sociétés cycliques ou sur des sociétés qui publient genre une biotech ou un truc comme ça, mais sinon une technologie, vous voyez généralement les changements dans les mécaniques de consommation, les choses comme ça, bien avant. Enfin, ça se fait pas sur un pivot de 2-3 mois. Vous n'avez pas une boîte, elle vendait du software as a service, elle faisait zéro, et puis au bout de 6 mois, elle fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc c'était imprévisible, et le marché, il a couru après ça. Non, généralement, vous avez toujours des histoires, des gens qui, des contrats qui sont signés, ce genre de choses, et vous avez des métriques au long cours, et vous voyez qu'il y a des choses qui se passent, mais parfois, par exemple, il y a de la licence simple qui est transformée en software as a service, ça fait diminuer le chiffre d'affaires de la société au début, et puis après, le chiffre d'affaires de la société croît, et bah, des fois, là, à ces moments-là, le marché ne comprend pas. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller essayer de comprendre la construction du marché pour pouvoir en profiter comme ce soir. Donc, je pensais que c'était important de vous en parler. C'est aussi important pour une chose, parce que je vois trop souvent des analyses de banque, des mecs, enfin pas des mecs, mais des gens de la finance sur Bloomberg, sur BFM et sur d'autres canaux, et j'en connais qui me disent, mais Arthur, s'il y a autant de volatilité, c'est parce qu'on est en bear market, et en bear market, il y a de la volatilité. Non, moi je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on est en bear market qu'on a de la volatilité, c'est parce que sur les options, on a une construction du marché avec beaucoup de petits porteurs américains qui déstructurent complètement le marché et qui sont des poulets sans tête. C'est-à-dire le matin, ils sont acheteurs du marché, l'après-midi, ils sont vendeurs et ils bougent comme ça tout le temps au gré des vagues et au gré de leur vision entre eux. Et ils créent du coup un sous-marché à eux-mêmes et ils créent une vision. Au même titre que c'est ces mêmes petits porteurs qui ont acheté beaucoup d'ETF Dark Invest et qui achètent beaucoup d'ETF différents. Et à force d'acheter des ETF qui eux-mêmes achètent des valeurs n'importe comment, bah vous vous retrouvez avec des valeurs qui explosent littéralement, parce que quand ARK Invest passe d'un encours sur gestion de quelques centaines de millions à plusieurs dizaines de milliards, bah forcément les valeurs que ARK Invest a en portefeuille, bah ils les achètent comme des tarés, et donc ils vont monter un titre comme des fous. Parce que tous les matins, quand ce ARK Invest détient, enfin, a des afflux de capitaux, et ben, il faut qu'il achète des nouvelles valeurs. Donc il achète aux proportions de chaque valeur dans son portefeuille. Et donc il est acheteur sur le marché. Et quand il est vendeur sur le marché, ben, vous avez la même mécanique, mais dans le sens inverse. Mais comme en plus on a créé des produits dérivés qui sont liés au portefeuille d'ARK Invest à la hausse ou à la baisse, et ça vous l'avez sur tout un tas d'ETF, et ben, on a créé un marché avec des effets de levier dans tous les sens, Et ça, c'est ce qui nous pose un problème maintenant. C'est d'ailleurs un très gros problème parce que ça peut provoquer une crise qui peut amener un bear market de long terme. Parce que vous avez du coup des risques qu'un jour un banquier vous arrive, qu'une banque comme Deutsche Bank ou une autre arrive et dise, écoutez, j'étais exposé à ces produits dérivés, c'est parti dans tous les sens, j'étais pas capable de me couvrir, j'ai perdu 20 milliards dans la semaine. Et je ne suis plus capable de rien faire. Et donc à ce moment-là, il faut recapitaliser la banque. Et vous avez le même problème qu'en 2008, quand des banques sont arrivées et ont dit, mais attendez, on était tous exposés à ce produit dérivé, vous nous dites qu'il vaut plus rien. Donc en fait, ben, notre bilan, il vaut plus rien. Et c'est ça qui est complexe quand vous investissez dans une banque, c'est que c'est très difficile de savoir précisément le bilan de la banque et ce sur quoi la banque est exposée. Parce que vous avez énormément de produits et en tant que... Déjà, le régulateur a du mal à savoir sur quel produit une banque est exposée et à définir le risque de chaque produit. Ben alors, en tant que particulier, c'est encore plus rock'n'roll. C'est pour ça que vous verrez très rarement des banques dans mon service et quasiment jamais. J'ai dû en mettre deux ou trois fois dans mon portefeuille dans ma vie et c'était pour jouer des rebonds. Donc ça a été assez rare. Et donc voilà. Et là, je pense qu'effectivement, il va falloir que le marché se calme. Parce que si le marché se calme pas, on a des très gros problèmes et ça peut poser d'autres choses. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'on n'est quand même pas en bear market? Parce que même si on est en bear market sur beaucoup de sociétés qu'on retraçait après avoir fait des hausses phénoménales, mais ça c'est normal parce que les petits porteurs américains les avaient fait exploser et maintenant elles retracent. Mais attention, elles retracent beaucoup trop parce qu'elles reviennent parfois sur des valorisations 2017, 2018, 2019, alors qu'entre-temps elles ont créé de la valeur et elles ont créé de la croissance. Je pense quand même qu'il y a des acheteurs dans le marché. Il y a des mecs comme Microsoft qui achètent Activision. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui sont acheteurs. Et il y a des acteurs comme PayPal, comme Facebook, qui ont beaucoup de cash, qui ont mal publié et qui ont besoin de montrer au marché qu'ils veulent faire des acquisitions, qu'ils veulent faire des choses, qu'ils veulent montrer qu'ils sont toujours en croissance. Donc ces gens-là, ils vont aussi chercher des cibles, des moyens d'agrandir leur spectre et de montrer qu'ils peuvent créer des choses. Donc, il va y avoir énormément de valeur. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas en bear market, parce que je pense qu'il y a quand même une certaine stabilité. Et d'ailleurs, vous voyez bien que l'indice, il se casse pas la gueule. Quand vous êtes en bear market, je peux vous assurer qu'on était là en 2000, en 2020. Quand en 2020, il y a eu le Covid, on s'est mangé moins 40% en ligne droite sur les marchés financiers et les indices, ils faisaient pareil que les petites valeurs. Là, vous voyez que vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, vous ne faites pas du tout la même chose, et les indices baissent de manière assez ordonnée, mais pas de manière... En bain de sang. Tiens, le Nasdaq, il a perdu 12-13%, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus un crack. Un crack, c'est vraiment vous perdez moins 30, moins 40 en un mois et demi, 2 mois. Là, ça fait déjà un mois, on est à moins 10-12, on a eu des bonnes publications. Enfin, sauf à ce que vous pensiez que sur le mois de février, là, on va perdre moins 20, moins 25% sur le Nasdaq en ligne droite, et à ce moment-là, oui, ça sera un crack. Mais sinon, il y a peu de chance. Donc moi, je pense qu'on n'est pas en crack. Par contre, effectivement, il y a un danger sur la construction du marché. Et ça, il faut le suivre parce que ça peut amener un crack. Après, la problématique que je vous dirais, c'est que je suis incapable de vous dire quand. C'est-à-dire, je peux vous dire que c'est un risque, mais je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous dire s'il va arriver. Donc la question, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il faut que vous preniez en compte le fait qu'il existe un risque, mais que je ne peux pas vous dire quand il va arriver et comment? C'est-à-dire, je peux vous dire qu'une épidémie, ça va arriver un jour ou l'autre. Celle du Covid, on est en train de la vivre et on va la passer, mais je peux vous dire qu'il va y en avoir une autre. Est-ce que pourtant ça veut dire que dans votre portefeuille, vous devez acheter des valeurs de la santé et que ça, parce qu'un jour, on va y avoir une pandémie? Ben non, un jour, on va y avoir un crack sur le marché, ça on le sait. Et là, on est face à un environnement de marché où effectivement, cette construction, elle est dangereuse. Donc peut-être qu'il faut vous hedger pour, en cas de baisse des marchés, donc acheter de l'or. Acheter des puts sur l'indice, ce genre de choses pour vous protéger, entre guillemets. Mais je suis incapable de vous dire, ça va être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc c'est pour ça qu'on achète des valeurs et qu'on ne sort pas du marché. Parce que si on était dans ce cas-là, peut-être qu'on va faire un bull run de 5 ans et que les particuliers vont juste abandonner les options quand ils se seront fait rincer. Et que le marché va les rincer là doucement, en allant en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà, parce que vous avez déjà beaucoup de particuliers qui ont perdu beaucoup d'argent là. Donc, et qu'après, ça va stabiliser, et qu'on va repartir sur un cycle haussier, drivé par des dépenses des gouvernements pour la transition écologique et tout, et qu'on va partir sur 5 ans de marché haussier. Et donc, si on n'investit pas maintenant et qu'on n'est pas présent, ben, on ne va pas capter ces 5 ans-là. Peut-être qu'on va avoir une crise qui va être amenée par ces acteurs-là parce que demain, une banque peut se lever et vous dire je suis en défaut. C'est possible, mais on n'en est pas sûr. Donc, c'est compliqué de faire un choix. Moi, je fais le choix d'être investi. Pourquoi? Parce que je me dis que même si on prend un plan de 50%, en un an et demi, 2 ans, je retrouverai largement plus que ces 50%. Donc, si je me dis qu'on peut faire un bull run qui est maintenant, de maintenant à pendant 2 ans ou 3 ans, bah, ça veut dire que j'ai intérêt à rester investir sur les marchés. Et comme je pense qu'il y a quand même des fortes chances qu'on fasse un marché aussi encore 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, je reste investi. Et si à chaque fois que j'avais eu peur, j'étais désinvesti, j'étais sorti des marchés, je serais sorti des marchés quasiment tout le temps. Parce que l'année dernière, fallait pas être dans le marché parce que à cause du variant. Là, faut pas être dans le marché à cause des options sur les particuliers US. En 2011, fallait pas être dans le marché à cause des problèmes de la dette de la zone Europe. En 2008, fallait pas y être parce que c'était la crise. Enfin, vous vous rendez bien compte. En 2015, fallait pas y être parce qu'il y avait encore autre chose. Il y avait les problèmes de guerre entre Kim Jong-un et comment s'appelle et Trump. Donc, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois, il y a des raisons pour lesquelles il faut pas être dans le marché. Et si vous y portez trop attention, bah, vous investissez jamais et du coup, vous faites jamais d'argent. Donc, le but, c'est quand même d'investir sur des belles boîtes sur lesquelles on a confiance pour se enlever de l'esprit ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas à l'esprit et que j'en ai pas conscience. Et c'est pour ça que je voulais vous parler et que c'est un peu long. Je l'ai à l'esprit, j'en ai conscience. Je suis pas un mec qui vous dit, je suis pas un gourou qui va vous dire le CAC à 20 000 points, c'est le bull run du siècle. Au même titre que sur les cryptos, je vous dis pas le Bitcoin à 1 million de dollars, ce genre de choses. Il y a des choses qui militent pour le Bitcoin à 1 million de dollars. Il y a des limitations du Bitcoin. Il y a des choses qui militent aussi pour que le Bitcoin descende de prix. Et il y a un équilibre. Et on essaye de trouver cet équilibre. Et moi, j'essaye de vous raconter cet équilibre et de vous amener à trouver votre équilibre. Parce qu'il y a l'équilibre du marché, il y a ma vision, et après, il y a la vôtre. C'est-à-dire que moi, je peux prendre moins 50% sur mon portefeuille, je suis capable de l'encaisser, et j'ai le mindset pour l'encaisser. Si vous n'êtes pas capable de l'encaisser, alors à ce moment-là, il faut peut-être jouer plus safe que ce genre de choses. Et je pense aussi que ça dépend de votre horizon de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai le mindset pour encaisser, parce que si je prends moins 50, je sais qu'on va mettre 2 ans à remonter, mais comme j'en ai 28, vous voyez, j'aurais récupéré mon capital à 30. Après, ça va repartir sur une phase ascendante de folie parce que ça veut dire que quand on sort du crise, forcément, il y a plein de valeurs pas chères à acheter. Donc, généralement, on fait largement mieux que le marché après. Donc, c'est un bon moment pour investir. Et donc, voilà, je vais manger du pain noir pendant un an et demi. Et puis, après, je repars comme en l'an 40 et je gagne beaucoup d'argent. C'est sûr que si vous avez 88 ans, vous n'avez peut-être pas la même problématique. Vous n'avez pas envie de manger du pain noir pendant 2 ans. Et ça, je peux le comprendre. Donc ça, il faut quand même réfléchir. Et ça, c'est un travail que je veux que vous fassiez, parce que c'est un travail que seul vous pouvez faire. Cette notion du risque et de ce que vous êtes prêt à risquer et à pas risquer. Et ne vous enlevez pas cette notion du risque en vous disant, ouais, mais on peut gagner 150 000 fois notre mise, 250 000 fois, ça c'est beau, c'est des beaux arguments marketing, c'est joli, c'est le papier cadeau du truc. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que si vous gagnez autant, vous prenez quand même un risque. Et donc, est-ce que vous êtes capable d'encaisser ce risque et de le subir? Parce que forcément, ce risque, vous allez l'encaisser à un moment et le subir. Et ça peut être gravement, gravement atteindre votre mental. D'accord? Vraiment gravement. Et ça, je vous le dis parce que moi, j'ai fait les options là et j'ai bien gagné. Mais c'est parce que si j'avais tout perdu, ça n'aurait jamais atteint mon mental. Et je connais des gens qui ont tradé des options et qui les traitent très bien. Et qui, dès qu'ils perdent, ça atteint leur mental. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de perdre de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir si vous voulez investir sur les options. Si vous n'avez pas cette capacité de tout perdre, il ne faut pas y aller dessus. Mais il ne faut pas non plus que vous soyez dans le on fire en vous disant oh, bah, à chaque fois, je mets 2 fois ce que j'ai gagné la fois d'avant. Parce que faut pas être comme au poker. Faut vraiment réfléchir. Et même au poker, il ne faut pas jouer comme ça, sinon vous vous cramez. D'accord? Donc je pense que c'est important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a été un peu long. Demain, on essaiera de faire je vais peut-être essayer d'enregistrer des vidéos pour les valeurs très importantes. Donc par exemple, les valeurs comme Amazon, comme Spotify, les valeurs qu'on a en portefeuille, comme Meta, je vais peut-être prendre comment ça s'appelle, les slides d'investisseurs des différentes conférences. et on fera en vidéo, comme ça vous verrez les infos importantes et ça sera autre chose que juste de l'audio, parce que je pense que l'audio c'est bien pour les petites valeurs sur Euronext, pour des trucs assez simples, pour les petites valeurs de Wall Street, mais peut-être que pour les grosses valeurs, pour essayer de comprendre les mécaniques de construction de ces valeurs-là et tout, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante, donc on va voir. C'était un peu long, je m'excuse et je vous souhaite une très bonne nuit.